Chers amis des cellules, bonjour. En ces jours où les mesures de confinement s'allègent, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui, pour notre temps d'enseignement, de méditer sur le texte de dimanche prochain, au chapitre 14, dans l'Évangile selon saint Jean, les versets 15 à 21, en regardant plus particulièrement l'expression « Je suis en mon Père et vous en moi, et moi en vous », que l'on trouve au verset 20. Nous essaierons d'être attentifs à cette interpénétration « vous en moi et moi en vous » dont parle Jésus, en essayant de saisir quelle est la nuance que chacun de ces rapports peut apporter. Situons d'abord notre texte. Nous sommes au dernier repas de Jésus avec ses disciples, c'est le soir du jeudi saint. Il y a déjà lavé les pieds de ses disciples, Judas est sorti, Jésus a annoncé qu'il allait être trahi, et les disciples présents sont marqués par la tristesse de cette séparation prochaine d'avec Jésus. C'est pour Jésus le moment de paroles tout à fait importantes, puisqu'elles sont les dernières paroles qu'il peut prononcer paisiblement à ses disciples pour les préparer à traverser l'épreuve de la passion. Lisons le texte. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous verrez que je vis, et vous aussi vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. » La question de la présence de Jésus traverse tout notre passage, notamment associée avec une formule « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements », l'amour pour Jésus et la conservation de ses commandements. Au début de notre texte, cela est associé avec la promesse d'un autre paraclet. Paraclet, c'est un terme qui veut dire défenseur, avocat, consolateur, un autre paraclet, parce que le premier défenseur, le premier avocat, le premier consolateur que nous avons, c'est Jésus lui-même. Et donc on pourrait se dire, mais si Jésus nous est arraché, à quoi bon garder ses commandements? Et Jésus dit non, conservez mes commandements. Il a parlé de son commandement nouveau un petit peu avant, au chapitre 13. Mon commandement nouveau, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, que son absence ne provoque pas l'abandon de ses commandements, à la fois parce que le Père donnera à la prière de Jésus un autre paraclet, mais aussi, et nous le voyons à la fin de notre passage, au verset 21, celui qui a les commandements de Jésus et qui les garde, donc celui qui aime Jésus, eh bien Jésus dit « Je me manifesterai à lui ». Donc la conservation de ses commandements, par amour pour lui, sera aussi le moyen de recevoir de la part de Jésus sa manifestation. Donc d'avoir conscience de sa présence, d'avoir le signe de sa présence auprès de nous. Au centre du récit, nous avons, au verset 18, une autre indication du souci de Jésus de ne pas les laisser seuls. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » On voit cette attention de Jésus à ce que le groupe des douze à ce que le groupe de ses disciples ne reste pas seul. Et vous avez même ici, avec ce terme de « je ne vous laisserai pas orphelin », pas simplement une dimension de présence, mais aussi une dimension paternelle. On est orphelin de ses parents. Il y a donc une volonté de Jésus, une conscience de Jésus que sa présence est une présence qui donne vie. Sa présence est une présence qui donne vie parce que il leur transmet l'amour du Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mon absence ne vous privera pas justement de ce que vous avez découvert à travers moi, l'amour du Père. Mon absence ne vous privera pas de ce que vous avez pressenti avec mon enseignement, avec mes actes, de cette vie éternelle auprès du Père, liée à la source de toutes les sources de vie, liées à la connaissance du Père, que vous avez du mal encore à percevoir. Souvenez-vous la question de Philippe. « Montre-nous le Père, cela nous suffit. Qui m'a vu, Philippe, a vu le Père. » On voit à travers cette expression « Je ne vous laisserai pas orphelin » à la fois le souci de Jésus pour ses disciples, l'attachement même de Jésus pour ses disciples, comme un parent est attaché à ses enfants, et la responsabilité, on pourrait dire affectueuse, de Jésus vis-à-vis d'eux. C'est un des passages où discrètement la tendresse de Jésus pour ses disciples se manifeste. Jésus annonce alors « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous verrez que je vis, et vous aussi vous vivrez. » Cette phrase est un peu surprenante parce que on s'attendrait plutôt que Jésus dise « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Or, c'est pas ce qu'il dit. « Le monde ne me verra plus », donc c'est à cause de la passion et puis ensuite de l'ascension, « mais vous, vous verrez que je vis. » Vous verrez que je vis. Ce n'est pas exactement la même chose de « vous me verrez ». C'est-à-dire que ce qui sera l'objet de la vision des disciples, c'est la vie de Jésus. Et donc, parfois, nous avons la conscience de la vie de quelque chose sans pouvoir le voir tout à fait directement. Prenons une image. Quand dans un jardin, au petit matin, après une nuit de pluie, vous voyez peut-être dans la boue des traces de pattes d'animaux, vous n'aviez pas vu directement ces animaux, mais vous avez, en regardant les traces, le signe que ces animaux sont vivants, qu'ils sont passés, qu'ils sont là. Et donc, quand Jésus dit « Vous verrez que je vis », ça ne signifie pas directement que nous le verrons comme les disciples l'ont vu avant la Passion, mais qu'ils verront les signes, les traces de la réalité de sa vie. Alors ils ont vu les signes de la réalité de sa vie quand il était présent devant eux glorieux, mais ils continueront à en voir les signes, et ça c'est tout le livre des Actes des Apôtres, à travers les actions de l'Esprit-Saint, parce que c'est l'Esprit de Jésus. Si l'Esprit-Saint est à l'œuvre, l'Esprit de Jésus, c'est donc que Jésus est vivant. C'est tout le cœur des Actes des Apôtres. Les apôtres attestent que l'Esprit qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit de Jésus, et c'est donc la preuve que Jésus est vivant. Et Jésus continue, « Et vous aussi, vous vivrez. » Alors là aussi, c'est un petit peu étonnant, parce qu'on pourrait dire, ben, si on voit que Jésus vit, ça doit dire que nous sommes vivants aussi, parce que si nous n'étions pas vivants, nous ne serions pas capables de voir du tout. Vous aussi, vous vivrez. Cela signifie que les disciples seront appelés à vivre de la même vie que Jésus. Et donc la vie qu'ils connaissent actuellement, on pourrait dire la vie naturelle, va être appelée à être transformée, va être appelée à être élevée. Et vous vivrez de ma vie surnaturelle. C'est ce que Jésus est en train de leur expliquer. C'est-à-dire que vous vivrez de cette vie plus forte que la mort. Et Jésus décrit alors un aspect de cette vie. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Il y a un premier rapport à faire entre l'affirmation je suis en mon Père et vous en moi. Voilà que Jésus annonce que nous aurons par rapport à lui un rapport analogue à celui qu'il a avec son Père. Il a insisté précédemment, le Père est en moi et moi en mon Père. Et voici que Jésus dit, je suis en mon Père et vous en moi. Il y a quelque chose donc où nous serons associés à une façon de vivre qui est à l'image de la façon de vivre de la Trinité. Il y a donc une qualité de vie à laquelle nous sommes appelés qui rejoint, qui est associée à la qualité de la vie divine. Jésus nous donne l'accès au Père. Si nous sommes en lui et lui dans le Père, alors nous serons par lui dans le Père. Nous serons par lui à la source de toute vie, à la source de tout amour. Tâchons maintenant de regarder l'expression vous en moi et moi en vous. Cette expression nous est connue, mais qu'est-ce qu'elle signifie comme nuance en fait? Vous en moi et moi en vous. Qu'est-ce que ça apporte de donner ces deux indications? Ce n'est pas simplement vous serez avec moi, mais vous en moi d'une part, et moi en vous, d'autre part. Quelle est la nuance de vie, quelle est la nuance de grâce que ces deux expressions apportent? Essayons de le regarder maintenant. Vous en moi, nous en Jésus. Eh bien, Jésus se présente à ce niveau-là comme notre citadelle, comme notre refuge. Nous sommes à l'abri de ses remparts. Il est notre bouclier, il est notre défenseur. On retrouve là l'évocation du terme de paraclet, défenseur, consolateur, avocat. Si nous sommes en Jésus, nous bénéficions de sa protection contre les assauts du mal, contre les assauts du tentateur, contre les assauts du mensonge. Nous recevons en Jésus le lieu où nous sommes en sécurité. Nous avons par Jésus le refuge de notre vie. Comment affronter l'hostilité de la haine? Comment affronter l'hostilité de l'imperfection de l'amour? Comment affronter ce qui nous agresse? En mettant justement en Jésus, en allant nous réfugier en Jésus. Souvenez-vous de cette parole de Jésus, venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. En allant en Jésus, nous trouvons le réconfort, nous trouvons la consolation, nous trouvons la protection. Seigneur, je viens en toi pour trouver asile, je viens en toi pour trouver protection, je viens en toi, mon refuge, pour refaire mes forces. Lorsque Jésus dit moi en vous, c'est-à-dire que c'est lui qui sera en nous, la perspective est différente. On verra chez saint Paul que cette perspective a été saisie de façon très forte par lui, lorsque saint Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous trouvez cela dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, au verset 20. Cela signifie tout d'abord que la puissance de vie qui est en nous n'est plus seulement la puissance de vie naturelle que nous avons reçue de nos parents. Ce n'est pas simplement la puissance de la chair et du sang qui est la nôtre, mais c'est cette puissance de la chair et du sang, toute saisie par la présence de Dieu, toute saisie par la grâce surnaturelle. Et voilà que nous ne vivons plus simplement humainement, mais nous vivons humano-divinement. Voilà, c'est cette réalité de la vie de Jésus qui est à la fois pleinement humaine et pleinement divine qui est présente en nous. Et cette présence est extrêmement importante parce que c'est elle qui va donner force, élan à notre vie. Il nous arrive parfois, pour prendre une image, d'être en parfaite santé, et pourtant, nous nous sentons là, nous nous sentons sans aucun élan, nous nous sentons peut-être même sans goût véritable, quel projet avoir, nous ne savons pas trop, il n'y a plus rien qui nous attire. Et il nous manque cette étincelle, il nous manque cette lumière qui nous permet de nous saisir, de saisir nos ressources et de les engager joyeusement dans une direction. Eh bien, cette présence de Jésus en nous nous donne cette vision, nous donne cet élan, nous donne ce dynamisme qui nous permet de nous mettre en route et donc d'être pleinement vivants. Je voudrais évoquer une autre image qui va nous permettre de comprendre l'importance de ce moi en vous, de la part de Jésus. C'est la façon dont notre journée peut s'éclairer par la présence de quelqu'un. La journée était terne, la journée était quelconque, et puis voilà que l'ami arrive, et sa présence, tout d'un coup, donne à tout ce que l'on voyait, un aspect, une couleur, un goût nouveau. Voilà que tout d'un coup le ciel paraît beau, que ce qui nous entoure paraît bien placé, que tout trouve sa place, tout trouve une saveur nouvelle, et alors que l'environnement n'a pas changé, mais il y a cette présence qui nous met en joie. Et cette présence qui nous met en joie transforme le regard que nous portons sur toutes les choses qui nous entourent. Eh bien, ce moi en vous de la part de Jésus est cette présence qui transforme notre regard, notre façon d'appréhender, notre façon de goûter tout le monde qui nous entoure. Voilà que désormais, ce moi en vous jette une lumière particulière, nouvelle, réjouissante sur tout le monde qui nous entoure. Elle éclaire de l'intérieur le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure. Souvenez-vous du visage du fiancé qui vient de retrouver sa fiancée. Vous avez là une image de ce visage habité par la présence de Jésus. Vous avez là une évocation de cette joie radieuse, rayonnante, de la présence de Jésus en nous. La vie n'est plus seulement écoulement du temps, déploiement d'un processus biologique. La vie est une communion d'amour. La vie est la joie de cette communion d'amour qui se déploie, fruit de la présence de Jésus en moi. Au terme de cet enseignement, reprenons les éléments essentiels. Avec tendresse, Jésus insiste qu'il ne nous laissera pas orphelins. À celui qui gardera ses commandements, à celui qui aime Jésus, à celui qui apprend à aimer comme Jésus aime, il se manifestera, et plus encore, il lui donnera de partager la même vie que lui. Cette vie est à l'image de la vie trinitaire, il sera en nous, nous serons en lui. Nous, en lui, nous trouvons notre refuge et notre citadelle, il est notre rempart. Lui, en nous, il est la présence, il est la lumière, il est l'élan qui donne à notre vie sa qualité supérieure, qui nous donne l'élan et la joie de vivre, qui nous donne une lumière nouvelle pour regarder, interagir, transformer le monde qui est autour de nous. Je vous souhaite de bons échanges.